Chapitre 7e. Je faisais ces réflexions lorsque tout à coup il m'apparut que je ne passerais jamais la frontière. Il y avait, à la dernière minute, quelque chose contre moi. La chance ne m'avait jamais abandonné, mais cette fois, elle me quittait. J'avais trop souffert, j'avais trop lutté. À la dernière minute, je n'avais plus de force. Alors j'éprouvais plus vivement qu'à Sénac ce regret d'avoir trop traîné depuis la ligne de démarcation, d'avoir fait les choses d'une façon trop bourgeoise. J'aurais dû être animé du même esprit qu'après mon évasion. Je n'aurais dû avoir qu'une idée, passée, et au lieu de cela, j'avais cru déjà bêtement que le plus dur était fait, que ce qui me restait à accomplir n'était rien, comparé à ce qui l'était déjà. Si je l'avais vraiment voulu, je serais déjà en Espagne depuis longtemps. Je pris ma tête entre mes mains. De nouveau, il m'apparaissait que je devais retourner au village. Mais je n'avais pas un sou. Comment manger, payer l'hôtel, comment vivre sans attirer l'attention, à qui demander de l'argent? Je revins au village complètement désespéré. Perdu dans ce pays que je ne connaissais pas, il me sembla que mon arrestation n'était plus qu'une question de jours. Mais les choses s'arrangent toujours. Tout semble absolument perdu et voilà que soudain, une éclaircie brille. En passant dans une petite rue, je vis un commerçant assis à la porte de sa boutique. C'était un vieil homme malade, un diabétique probablement, car il était amputé d'une jambe. Il jouissait d'une de ces tristes convalescences qui suivent les opérations qui n'ont en réalité rien changé à notre mal profond. Au fond, qu'était mon malheur à côté du sien? Je parlais à cet homme. Cela me faisait du bien. Il me pria de m'asseoir. Je me sentais loin du monde dans cette ruelle coupée en deux par la lumière de la lune. Il me posa à son tour des questions et tout d'un coup, comprenant qui j'étais, ce qui m'était arrivé, il me fit entrer chez lui. Il appela sa femme. Il lui raconta devant moi ce que je venais de lui dire. Elle l'écouta sérieusement, sans dire un mot, me regardant, avec cet air si particulier des femmes qui n'ont aucun pouvoir effectif, mais dont la vie prime tout, cet air un peu méchant, soupçonneux, qui cherche surtout à voir si l'on a inspiré une sympathie dangereuse à l'homme qu'on aime. Quand son mari eut terminé, elle dit que je pouvais rester chez eux. Cela me causa une telle joie que je me mis à balbutier. Tout ce que je demandais, c'était quelques jours devant moi, pour me retourner. On m'offrit à souper, mais je refusais. Quand on a fait quelque chose pour nous, que cette chose est faite, les moments qui suivent sont pénibles, car c'est alors que vos bienfaiteurs se demandent justement s'ils ont été bien avisés d'agir ainsi, et nous souffrons de sentir ce débat se prolonger en eux-mêmes. Je ne parvenais pas à m'endormir. Je pensais que j'avais couru bien des dangers et que c'était beaucoup pour un seul homme. Puis je me disais que dans la vie la plus monotone, il s'en passait peut-être autant. Il fallait surtout n'en vouloir à personne. Pas de rancune, c'est le secret du bonheur, du succès, de la réussite. Depuis quelques jours déjà, j'étais réveillé quand les coqs se mettaient à chanter. Et au lieu de me dire comme avant, quand je les entendais, qu'il devait être très tôt, je me disais « enfin ». Je me décidai deux jours plus tard à partir seul le lendemain soir. Tant pis, il arriverait ce qui arriverait. C'était ridicule de traîner ainsi juste à la frontière. Et pour la première fois, je pensais à ce que serait ma vie à l'étranger. Quand nous décidons une chose avec tant de force, nous finissons par n'en voir plus aucune autre. Nous la croyons parfaite. Nous l'avons mise à sommeil une fois pour toutes, afin de ne pas gêner nos efforts, et au moment de l'obtenir, tout à coup, nous nous demandons si elle en valait vraiment la peine. Depuis des mois, je rêvais d'aller à l'étranger, et voilà que demain, si tout se passait bien, ça serait fait. Je me représentais l'accueil qui allait m'être fait, la cordialité mêlée de méfiance, la sympathie pour l'homme qui avait enduré tant de misère. On m'observerait, cependant, on ne sait jamais. J'étais peut-être un menteur, rien ne prouvait que je disais la vérité. J'allais quitter la France où j'avais passé les plus belles et les plus fécondes années de ma vie. Les autres, celles qu'il me restait à vivre, je les portais à l'étranger. M'en saurait-on gré là-bas? Les accepterait-on ces années qui seraient peut-être celles du déclin? Je me le demandais. Accepterait-on un homme qui allait peut-être tomber malade en arrivant, à qui il faudrait donner des soins? Quand donc tout cela finirait-il? Les inquiétudes que je venais de vivre ne m'avaient-elles pas marqué pour toujours? Jusqu'à présent, j'avais coutume de sourire en entendant parler du contre-coup d'un malheur. Je pensais qu'un danger passé, tout était fini. Je m'étais trompé. À la tombée de la nuit, je pris congé du commerçant. Il me donna un colis de nourriture. Je le remerciai. J'étais si ému que je l'embrassai. Je lui dis qu'il allait peut-être me revoir le lendemain entre deux gendarmes. Je n'osais pas lui dire que je le reverrais après la guerre, tellement il me paraissait malade. La nuit était magnifique. Avant de commencer à monter, il fallait faire 2 ou 3 kilomètres à plat. J'étais très abattu, mais dès que je fus seul dans la campagne, je devins un autre homme. Un berger s'approcha de moi, accompagné de son chien qui faisait de grands cercles autour de lui, comme autour du troupeau que je voyais plus loin continuer à paître, maintenant qu'il n'était plus gardé, exactement comme avant. Je m'arrêtai. Le berger me regarda longuement. Je n'avais pas peur, tellement il paraissait faire corps avec la montagne. Je compris qu'il me disait qu'il fallait que je fisse attention de ce côté. L'inquiétude me reprit. Je lui demandai ce que je devais faire. Il resta un instant sans répondre, puis il ordonna au chien de retourner auprès des bêtes. Le chien obéit comme une personne. Toujours sans m'adresser la parole, le berger me fit signe de le suivre. Assis à 200 mètres, le chien nous regardait partir. Nous prîmes un sentier. Il marchait devant, sans se presser. Chaque fois qu'il y avait un obstacle, il se retournait légèrement pour voir si je l'avais franchi. Nous arrivâmes devant une petite maison entourée de rochers. D'autres chiens se mirent à aboyer. Cela me frappa que les êtres vivants se défendaient là comme partout ailleurs. Un vieil homme parut sur le pas de la porte et son visage s'épanouit en me voyant. Il était extraordinaire que ce ne fût qu'au moment de partir que je trouvais autant de sollicitude. Le cœur de la France se ravait-il donc au moment où je la quittais? Alors je compris qu'il n'y en avait partout comme il y en avait ici, mais qu'aujourd'hui il ne se laissait voir que très loin, dans les coins perdus, en cherchant. On m'offrit une tasse de lait puis du vin. J'étais assis. Alors je me mis à parler comme si je me trouvais avec ce que j'avais de plus cher et tout ce que je disais était écouté attentivement. Je racontais ce qui venait de m'arriver. Je vis alors le vieil homme jeter un regard sur son fils, celui-ci faire un signe imperceptible. Je vis la vieille femme se lever. Il voulait me donner de l'argent. Je me mis à pleurer. C'était trop de bonté. C'était surtout trop tardif. Je comprenais que mon pays n'était pas mort, qu'il était partout comme il était ici. Je gardai un long moment l'argent dans ma main pour ne pas froisser en le rendant tout de suite, puis je le posai sur la table. Je dis que je n'avais pas besoin d'argent, que ce qu'il me donnait était beaucoup plus précieux que tout l'argent du monde. Le soir, le père et le fils partirent avec moi dans la montagne. Le matin, ils me quittèrent. J'étais en haut de la montagne. Je me tournai vers la France. Le soleil se levait. La plaine était inondée de lumière et de brume. J'entendis à ce moment un bruit de pas derrière moi. Je me retournai. 2 gardes espagnols s'approchaient de moi. Je savais qu'ils allaient me conduire en prison, mais cela m'était égal. J'étais libre. Ainsi s'achève Non-lieu d'Emmanuel Bove.